Attention, vous êtes arrivés dans les Monts de Demain, une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les Monts de Demain.
On est en octobre à Saint-Pierreville au moment des castagnades. Le soleil, comme le public, est au rendez-vous ce matin pour partir philosopher avec les bergers, en compagnie de Simon Parcot, philosophe et écrivain qui aime laisser traîner sa sensibilité sur les chemins de traverse. Simon Parcot, c'est à lui qu'on doit les livres « Le monde est vertical » ou encore « Le champ des pentes ». Pour cette balade philo-automnale, on s'apprête à mieux comprendre toutes les représentations liées au métier de berger qui influencent en réalité, on va le comprendre, toute notre vision du monde. Prêt pour cette exploration? Alors d'abord, on commence par nous.
Je vous propose ce petit jeu. Quelles sont les raisons qui vous pousseraient à accepter cette proposition quand même un peu précipitée hein, de cet éleveur ardéchois de Haute-Loire ou des Alpes qui vous invite à aller garder ces 1000 bêtes pendant les 4 mois d'une saison?
Être au milieu de la nature?
Oui, être au milieu de la nature, ce serait les raisons positives, c'est ça? Ouais.
Pour moi, il y aurait une forme de... un peu de chemin initiatique au travers effectivement de la nature, des animaux qui ont aussi qui amènent à certaines contraintes, obligations et responsabilités.
Partir avec ces chiens, c'est quelque chose, mais 4 mois, c'est méga long. Et moi, je serais incapable de gérer cette solitude.
L'enjeu du jour, c'était vraiment de proposer une petite réflexion sur le pastoralisme, donc sur cette technique très particulière de gestion des populations ovines et bovines, technique de gestion extensive. Et très, très rapidement, j'ai voulu éviter l'écueil en fait, d'une romantisation en fait, du métier. Lorsqu'on voit le titre « Philosopher avec les bergers », on peut avoir l'impression qu'on va parler de grands espaces, de solitude, de sentiments, on va dire, d'infini face à l'immensité du ciel ou des alpages. Et bien, j'ai voulu vraiment éviter cette romantisation et faire finalement une petite généalogie en fait, de nos représentations du métier.
Et c'est parti, on se met en marche et on chemine avec différentes personnalités qui ont façonné ces représentations.
Pour introduire notre premier personnage, je suis allé chercher dans la littérature occidentale la première mention en fait, d'un métier qui correspondrait aujourd'hui à celui de berger. Et la première fois qu'on évoque le métier de berger dans la littérature occidentale, c'est dans le chapitre 4 de la Genèse avec l'histoire de Abel et Caïn. Abel fournit à Dieu le premier agneau de son troupeau de l'année, alors que Caïn fournit plutôt les fruits et les légumes qu'il cultive. Dieu préfère le sacrifice d'Abel à celui de Caïn. Jaloux, Caïn se venge et tue son frère, commettant ainsi le premier meurtre, le premier crime de l'histoire de l'humanité, tel qu'il est raconté dans la Genèse. On a là la version biblique et mythique d'une transition historique qui a bien eu lieu il y a 10 000 ans, très exactement, dans la région du croissant fertile, et qu'on appelle aussi aujourd'hui la révolution néolithique. C'est quoi la révolution néolithique? C'est très important pour notre balade, parce que c'est la conversion d'une partie de l'humanité dans la région du croissant fertile, d'un statut de chasseur-cueilleur nomade à un statut d'éleveur-agriculteur sédentaire.
Vous l'avez compris, on est là pour comprendre ce qui se cache derrière ces idées bien ancrées.
Je questionne un peu pendant cette balade, c'est qu'on a aussi ce récit-là, qui est très répandu aujourd'hui, de dire que c'est en fait à partir du néolithique, les animaux domestiqués vont être transformés en ressources mises à notre disposition, et finalement vont être des créatures humaines, des créations humaines, par opposition avec les animaux sauvages, qui sont au contraire des alter-ego et qui ne sont pas domestiqués. Et ben, j'explore cette voie tout en me référant à des anthropologues contemporains, je pense, entre autres à Charles Stepanov, qui nous explique que cette perception en fait, du néolithique est en fait une création du 18e et 19e siècle, et qu'en réalité, même depuis le néolithique, l'animal n'est pas considéré comme un animal ressource, une sorte de matière mise à notre disposition, mais aussi parfois comme un cousin, un membre de la famille ou un être qui dispose d'une forme de conscience et de sensibilité qui vont lui être progressivement enlevées, cette conscience et cette sensibilité, avec l'apparition des premières techniques de gestion de populations ovines et bovines de masse au 18e, 19e siècle et jusqu'à nos jours, bien évidemment. Et je pense que le métier de berger, s'il est réalisé avec respect de l'environnement dans lequel les bêtes vont paître et respect aussi des bêtes, peut être un formidable moyen de sortir de notre perception de la nature et du vivant aujourd'hui en 2025, qui considère la nature soit comme une ressource à exploiter, soit sinon comme un espace, un vaste musée à sanctuariser. Le berger nous apprend à vivre avec les bêtes. La balade philosophique, moi, c'est une animation que j'ai pensée en 2018. Et l'idée, c'est de faire une conférence ambulante sur un sujet qui m'intéresse ou qui intéresse les structures qui me font intervenir. Elle se déroule de la sorte. On part marcher et puis toutes les 5 à 10 minutes, en fait, j'avance dans le sujet du jour pendant des temps statiques où je présente des auteurs et des autrices et leurs pensées. Et ce qui permet, en fait, les temps de marche permettent à la fois de se détendre, c'est un peu des temps de récréation. Ils permettent de se détendre, ils permettent de peut-être digérer en fait ce qui a été dit, ils permettent de discuter du sujet éventuellement avec les autres participants du jour, ou ils permettent d'oublier aussi ce qui a été dit, tout simplement, comme dans un temps de récréation, de profiter pleinement de la balade, ce qui rend en fait les gens beaucoup plus disponibles à une prochaine intervention.
C'est
la
super beau, c'est genre le printemps, les fleurs,
les petits oiseaux, l'eau qui coule, on est dans la nature, les papillons, c'est à dire quoi, bucolique, quand on dit ça,
c'est beau,
c'est doux, c'est tranquille, c'est innocent, il n'y a pas de piétin, il n'y a pas d'acte de loup, il n'y a pas de violence, c'est bucolique, n'est-ce pas, c'est doux, c'est mignon, et bien c'est les bucoliques de Virgile, voilà, bucolique ça vient du grec ancien boukolos, qui veut dire le berger. Et boukolikos en grec ancien, c'est ce qui est relatif au berger, au pastoralisme. Il nous écrit un texte, le titre est je vous raconte des histoires relatives au milieu du pastoralisme, en quelque sorte.
Le berger devient ainsi une figure romancée, reprise par les évangiles, dans lesquels, de par leur simplicité, leur humilité, ils sont ceux en capacité de recevoir les messages divins. On pense au tableau l'Annonciation au berger, l'Adoration des bergers. Et c'est tout un imaginaire qui infuse à tous les niveaux de la société. Ça a été bien repéré par l'éthologue Michel Audricourt et à sa suite par un autre Michel.
Il s'appelle Michel Foucault, philosophe. Il écrit 2 articles en 1977 et dans ces articles, il va créer un concept qui est le concept de pouvoir pastoral. Le pouvoir pastoral, c'est une mode de gestion des populations humaines qui correspond au mode de gestion du berger vis-à-vis de son troupeau. Et les caractéristiques du pouvoir pastoral, selon Michel Foucault, c'est qu'il y a un berger qui est comme un monarque éclairé, c'est-à-dire que le berger est censé détenir le savoir et ainsi le pouvoir, comme les figures des prophètes qui s'identifient elles-mêmes en fait au berger. Il sait à la place de ses brebis disciples ce qui est bon pour elles. Ainsi, dans le pouvoir pastoral, les brebis disciples donnent de manière très libre le pouvoir au berger roi, qui sait mieux qu'elle ce qui est bon pour elle.
Avec Simon Parco, on continue d'emprunter des chemins de traverse, et avec Charles Stepanov, anthropologue, il nous amène à découvrir ce qui se passe dans d'autres cultures.
Mais il existe d'autres techniques de garde dans des cultures qu'on pourrait dire pastorales, et j'ai envie de vous amener, pour les évoquer, chez le peuple Tojou, très exactement, et chez les Nénètes, qui sont deux peuples sibériens, tels qu'ils ont été étudiés par le fameux Charles Stepanov. Leurs techniques de garde sont très différentes. Parce que les nénettes ne gardent pas comme nous en créant des enclos, donc sur le mode de la gestion des animaux, sur le mode de la captivité, avec création d'enclos, ni sur le mode de la surveillance. Ils ne voient aucun intérêt à enfermer les bêtes ou sinon à les gérer toute la journée. Charles Stepanov nous dit plutôt que leurs techniques de garde et modalités de gestion se font sur le mode de l'attirance ou de la libre gestion, la liberté de gestion. Alors, c'est-à-dire que Charles Stepanov, dans Attachement, en fait, il va définir 5 manières de garder les bêtes dans les peuples pastoraux. Un, il y a la captivité, garder les bêtes en enclos. Deux, la surveillance, on garde les bêtes comme un berger aujourd'hui, on va les accompagner et les gérer en alpage, on passe la journée avec elles. Trois, la vérification. Vérification, c'est on laisse les bêtes libres, mais une à deux fois par jour ou par mois, on vient vérifier l'état des bêtes, est-ce qu'il en manque, est-ce qu'il y en a qui sont fait attaquer. Quatre, c'est l'attraction. On va attirer les bêtes, elles sont libres, mais on les attire. Et 5, c'est la liberté saisonnière, c'est-à-dire que les bêtes sont tout à fait libres. On les laisse venir vers nous sans les attirer. Nous, en Occident, on garde les bêtes sur le mode de la captivité ou de la surveillance. On ne les laisse pas libres. Chez les nénettes et chez les tojou, on va garder les bêtes sur le mode plutôt de l'attraction, parfois de la surveillance ou de la liberté saisonnière. Les bêtes sont libres. Je parle des rennes, en l'occurrence, parce que les Tojou sont des peuples éleveurs de rennes. Les bêtes sont libres et on ne va jamais les enfermer, jamais les surveiller comme le fait le berger. On va plutôt les laisser soit complètement libres, soit sinon les attirer avec différents moyens. Ce qui est intéressant dans cette perception, c'est qu'on pourrait se dire, les Tojou, ils ont ce luxe qu'on n'a pas de laisser les bêtes libres, parce qu'ils n'ont pas les contraintes qu'on connaît nous en alpage. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, nous apprend Charles Stepanov. Les Tojou laissent leurs bêtes libres, ou fonctionne par attraction ou par liberté saisonnière, parce que la bête n'a pas le même statut ontologique et métaphysique que chez nous. La bête n'est pas une ressource infantilisée comme chez nous qu'il faut gérer. La bête est un alter ego, un presque humain, ce sont des peuples animistes, qui disposent d'une conscience, une véritable conscience, d'une perspective sur le monde, d'une autonomie et d'une capacité à faire des choix.
Et dernière question, tu demandes aux gens qui sont partis donc avec des figures, avec qui ils seraient partis voilà, pendant 4 mois en estive avec 1000 bêtes. Toi, tu serais parti avec qui?
Je pense que je serais parti. Avec qui tu serais parti? Je réfléchis là pour me les passer un par un. J'aurais fait un combo, je serais parti avec Violaine Béraud. Allez, on va, voilà, je vais rendre un petit hommage à Violaine, qui est une autrice contemporaine, chevrière. Et déjà, je serais parti avec elle parce qu'elle connaît très bien le métier. Hein. Elle m'aurait évidemment aidé à l'apprendre et à le réaliser. Puis elle incarne, je trouve, une ligne super intéressante aujourd'hui dans l'écriture de la nature et du pastoralisme. Et puis en parallèle, je serais parti aussi avec Charles Stepanov. Finalement, deux personnes contemporaines encore en vie, hein, tous les deux. Et Charles Stepanov, parce que la lecture là, de son ouvrage m'a aidé à déconstruire pas mal de préjugés sur le pastoralisme. Je serais parti avec ces deux-là, ouais.
C'était votre chronique, Les Monts de Demain.